vous dans ce dernier numéro de l'année 2016 de l'Amérique et vous. Retour sur la situation politique en République démocratique du Congo. Nous évoquerons avec nos invités les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide de l'Église catholique. Quel accord définitif pour résoudre la crise? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et réactions sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au téléphone 001 202 619 31 40. L'Amérique et vous ce vendredi accueille Thierry Dongala, contributeur à l'African Politan Magazine qui se trouve à New York. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Scott Bob. Vous êtes le chef du service français ici à VOA Afrique à Washington. Bienvenue dans l'Amérique et vous.
Bonsoir Tatiana.
Bonsoir aux auditeurs.
Alors, vous avez été nombreux à laisser des commentaires sur notre page Facebook Afrique. On va commencer tout de suite avec celui d'Alphonse Mbouaki en RDC qui nous dit « Tshisekedi menace de reprendre avec la rue au cas où les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine ne veulent pas décrisper la situation ». Alors, on sait qu'à Kinshasa, à l'heure où nous parlons, nous sommes encore en pleine dans les négociations. Un accord n'a toujours pas été signé, Scott.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a été reporté plusieurs fois. Et je crois que le peuple attend, comme beaucoup de monde, un issue à cette impasse.
Alors, on va essayer d'être interactif dans cette émission, c'est-à-dire qu'on va essayer de joindre différents auditeurs depuis Kinshasa et ailleurs. On ira certainement voir Augustin Tshibang en RDC ou encore Alphonse Bouaki ou Cher Oumar au Mali, puisque vous avez été nombreux à réagir. Thierry Dongala, des négociations qui durent avec des deadlines toujours repoussées. Qu'est-ce que vous en déduisez?
Les négociations, pour l'instant, il nous semble qu'on n'a pas trop d'espoir dans les négociations parce que de la part du gouvernement, on les voit pas trop investis dedans. Mais on sait que c'est le dernier essai en fait avant qu'il y ait encore une autre. Ça montre au prochain niveau pour cette crise.
Alors, on me signale que Bakary Keïta, qui est un auditeur au Mali, est en ligne. Bonjour, bonsoir, Bakary.
Oh, bonsoir, Tatiana.
Alors, la situation de la RDC ne laisse personne insensible. Comment est-ce que vous observez depuis l'Afrique de l'Ouest, ce grand pays d'Afrique centrale?
Cette situation, quand même, nous reste vraiment indifférent. Donc, on doit essayer de voir. On a quand même des inquiétudes pour cette sortie de crise. À mon avis, la crise ne sera pas résolue définitivement. Ce que les évêques ont fait, quand même, c'est très bien. Moi, j'aurais préféré à ce qu'ils demandent à ce que Kabila parte. Cela peut être quand même une solution plus idoine. Sinon, comme ça, la crise peut résoudre la crise avec des tensions. Vous voyez. Donc, le lendemain, ça pourra quand même péter.
Effectivement, on vous entend mal, Bakary. En tout cas, merci pour votre témoignage. Scott, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? On sait que les négociations ont été reportées à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, il y a encore des choses qui n'ont pas trouvé d'accord.
Oui, d'après les informations qui nous arrivent, c'est la primature, comme d'habitude, et aussi la fin du mandat et le gouvernement de transition. Et ce sont toujours les gros sujets parce que quand même, il s'agit de la gouvernance là-dedans.
Et on parle de ce glissement, de cette transition. Il y a Eric Kotessat en RDC qui justement lui dit « On lui demande à Kabila tout simplement de signer la date de la fin du glissement et sa non-représentation aux prochaines élections et ça pose problème. » Thierry Dongala, est-ce que pour vous, vous faites la même lecture que cet auditeur de RDC qui pense que Kabila est finalement le cœur du problème?
Oui, mais comme la plupart d'Afrique, le pouvoir est très centralisé, surtout avec le président. Et en fait, il tient tous les éléments clés pour sortir de cette crise. Mais une chose qui est très importante à remarquer, c'est que bon, on sait qu'il y a beaucoup de voix. Il y a des gens, les Américains ont parlé, l'opposition, l'Église a parlé. Il y a beaucoup de voix, mais malgré ça, fondamentalement, c'est toujours le président qui tient tout. Mais il y a une chose qui risque de pousser le président à décider d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il a plus de mandat constitutionnel après en 2017. Donc, ça devient maintenant une crise de légitimité. pour le président. Est-ce qu'il peut même signer des contrats?
Exactement. Exactement. Et Scott, c'est la question que beaucoup d'auditeurs se sont posées. Quel est aujourd'hui le statut officiel, au 1er janvier 2017, quel sera le statut officiel de Joseph Kabila?
Oui, et ça dépend à qui on consulte. Par exemple, pour certains, le mandat est fini, il n'a plus de pouvoir constitutionnellement. Mais pour des autres, comme il n'y a pas eu d'élection pour le remplacer, il pourrait continuer peut-être à titre seulement de status quo.
Alors, est-ce que ce serait lui qu'on appellerait le président du glissement, de la transition, peu importe le terme qu'on utilise?
Je crois que c'est ça qu'on discute ce soir. C'est qui sera, qui va présider cette transition et qui va gérer cette transition. Je crois que c'est un sujet très important.
Alors justement, un sujet important, et l'opposition a du mal à être vraiment unie dans ces négociations. On sait que, par exemple, le camp de Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, n'a pas participé aux premiers accords. Cher Oumar Fomba au Mali, qui nous dit « Il faudra que les parties prenantes respectent les engagements afin de faciliter l'organisation des élections crédibles et transparentes. » Ou encore Tiburce Denagaï en Centrafrique qui dit « Il faut donner un an à Kabila pour mieux organiser les élections en 2017. La violence n'est pas une solution. Il faut que les Africains changent leur mentalité. » Alors, est-ce que ce glissement peut durer un an, Scott? Un an, c'est encore beaucoup, mais c'est ce qu'avait demandé le premier accord, avril 2018.
Même plus. Évidemment, pour certains, ils aimeraient que ça glisse, que ça continue, mais évidemment, il y a une partie de la population assez importante qui veut vraiment voir un changement ou un début de transition. Alors, c'est pour ça qu'on est avec les évêques ce soir. On essaie de vraiment gérer quelque chose qui pourrait dégringoler dans une violence beaucoup plus extrême qu'on a vu déjà.
Oscar Djossou, on se dirige vers vous. Bonsoir, Oscar.
Oui.
Bonsoir.
Bon, ce que j'ai à dire, c'est que Kabila, on ne peut pas chercher d'aller une alternance avec Kabila, parce que Kabila détient tous les moyens. Kabila, c'est un animal politique. Il sait utiliser ses moyens-là pour arriver à sa fin.
Mais justement,
les évêques qui cherchent à organiser ce qu'on appelle le consensus, eux-mêmes, ils ont peur de Kabila. Ça, disons la vérité. Ils ont peur de le dire la vérité. Parce qu'actuellement, Kabila a toutes ses forces. Il a l'armée qui le soutient.
Mais justement, pour éviter... Oscar, pour éviter...
Il fait sortir. Oui.
Oscar, pour éviter des violences, justement, les violences auxquelles on a déjà assisté après le 19 décembre, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une transition plus calme, plus sécurisée, qui pourrait justement permettre d'organiser des élections et un départ en douceur, si on peut parler ainsi?
J'ai une proposition à faire. Ma proposition, c'est que Kabila accepte de donner le pouvoir au président de l'Assemblée ou bien au président du Sénat, qui va diriger le pays pendant un an, tout en profitant de la durée là pour pouvoir organiser une élection de transition. C'est la seule solution. Mais si on dit que Kabila va encore rester à la tête, sachez, soyez sûr qu'il va encore faire les 5 ans, les 4 ans, il va faire encore son troisième mandat. La seule solution, c'est qu'il décide de laisser le pouvoir. Soit le président de l'Assemblée prend le pouvoir, il fait un an pour assurer la transition et il organise les élections. Et c'est fini.
Merci beaucoup, Oscar. Vous étiez en direct du Bénin. Alors, Thierry Dongala, c'est la question que beaucoup se posent aussi. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas tout intérêt à faire basculer le pouvoir auprès du Parlement?
Mais en fait, c'est ça. Ça devient une crise juridique presque parce que, selon la loi, la Constitution, c'est le Parlement qui prend le relais. Le président du Parlement. Mais bon, pour l'instant, il y a une dynamique un peu de force qui est là et on aimerait soutenir la paix, c'est là où les pouvoirs d'urgence de la présidence peuvent peut-être surmonter les devoirs de la Constitution. Et du Parlement. Mais une chose qui est très importante, c'est que les parlementaires, la dernière fois que Kabila avait essayé, il n'a pas réussi. Et les gens disent que c'est le peuple qui a peur de Kabila, mais il nous semble que c'est Kabila qui a peur du peuple. Parce que c'est lui qui mobilise contre le peuple, c'est lui qui a peur d'aller aux urnes pour voir ce que le peuple va dire. Il a même peur du Parlement. Donc c'est vraiment peut-être... c'est les deux éléments clés de cette situation qui peuvent soit aggraver la situation ou apaiser.
Scott Bob, je vous voyais un petit peu hocher de la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture de Thierry?
Non, absolument. Je voudrais remarquer que dans les transitions ordonnées en Afrique, il n'y a pas ailleurs, c'est toujours quand l'individu ou le parti au pouvoir est d'accord pour céder pacifiquement ce pouvoir. Parce que quand ça résiste, il y a toujours des problèmes.
Diarra Kanyoumé, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir, Diarra.
Bonsoir, Tatiana. Bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Diarra?
Je vous appelle depuis Bamako, Mali.
D'accord. Bonsoir à nos auditeurs maliens. Alors, vous souhaitiez aussi réagir sur ce mandat qui se prolonge, en fait.
Oui, effectivement. Bon, vraiment, à mon avis, vraiment, la honte à la place de nos dirigeants africains, surtout Joseph Kabila. Vraiment, tous les médiateurs ont médiaté, mais il n'y a rien de changé aujourd'hui. Donc, je pense que le peuple gabonais doit savoir que le président Kabila ne veut pas quitter au pouvoir. Donc, à mon avis, je pense que Kabila doit quitter au pouvoir immédiatement. Il est déjà au pouvoir si tu n'as réalisé. Donc, ce n'est pas la peine de fatiguer le peuple congolais.
Merci beaucoup, Diarra, depuis Bamako. Bonne soirée à vous. Alors, quelle marge de manœuvre a la communauté internationale? On entendait cet auditeur malien parler de la médiation, de tous ces différents acteurs qui interviennent les uns après les autres. Avant l'Église, il y a eu plusieurs médiateurs avant. Quelle marge de manœuvre a la communauté internationale, Scott?
Eh bien, dans le quartier diplomatique, elle n'est pas très grande. Déjà, beaucoup de pression a été mis sur le gouvernement et tous les partis pour vraiment s'entendre. Bon, il reste des mesures plus sévères comme des sanctions économiques ou comme...
L'Allemagne l'a déjà fait.
Bon, et alors, puis les grands partenaires comme les États-Unis ou la France aussi ne sont pas entrés dedans à tout poids. Mais donc, il reste beaucoup de marge, mais dans le sens diplomatique, je crois qu'elle est beaucoup moindre.
Alors justement, il y a Hervé Bisselé en RDC qui nous dit « Nous, Congolais, nous sommes aveugles, on est manipulés comme des objets par cette communauté internationale qui ne vise qu'à déstabiliser le Congo et créer des États indépendants pour mieux exploiter ses richesses. Non à la balkanisation de l'Est sous l'égide de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la séparation du Congo, selon lui. » Une piste de réflexion, Thierry Dongala, tout à l'heure, vous parliez vous parliez tout à l'heure de l'aspect juridique du dossier. Si jamais Joseph Kabila, en 2017, est toujours dans ses fonctions, qu'elles soient reconnues constitutionnellement ou non, comment va se positionner la communauté internationale? À qui elle va s'adresser? Est-ce qu'il va continuer d'être invité dans les différentes conférences internationales? Est-ce que l'ONU... À qui va s'adresser l'ONU, par exemple, ou le prochain président Trump, par exemple?
C'est très, 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 très important ce que vous venez de remarquer, parce que même il y a même des effets, cette question a même des effets économiques. Si des sociétés veulent venir investir, avec qui ils signeront des contrats? Est-ce que ce contrat aura légitimité dans les cours de commerce, même à Paris ou même à New York? Cette question de légitimité risque d'avoir des effets économiques et financiers non, en dehors des sanctions, c'est-à-dire l'investissement étranger au Congo aura un effet. Bon, il y a déjà un effet, mais c'est vraiment ça monte à un niveau un peu plus haut que c'est déjà aujourd'hui. Mais est-ce qu'il sera isolé? Ça commence déjà et on a vu cet exemple peut-être de l'autre côté de la rivière du Congo, du fleuve Congo, parce que à un moment on voit que quand il y a un glissement, on perd un certain poids dans l'étage de la diplomatie mondiale.
Merci.
Donc oui, c'est quelque chose à remarquer et je suis sûr qu'il est président Kabila est en train d'y réfléchir.
Scott Bob.
Oui, et dans le secteur commercial, par exemple, les capitaux étrangers qu'on est toujours à la recherche, ça risque de diminuer, peut-être s'effondrer. Des négociations en cours risquent de traîner parce qu'il y a une incertitude et cela pourrait faire une pression sur le gouvernement et l'opposition.
Alors, il y a cette pression économique, mais il faut penser aux Congolais avant tout, qui sont dans une situation intenable, hein, parce qu'on a vu plusieurs foyers de violence à travers le pays, c'est pas seulement à Kinshasa, alors sachant que le pays a déjà une instabilité sécuritaire dans l'Est. On va tout de suite prendre Falikou Diomandé, qui nous appelle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, et qui nous dit « Je crains que ça ne soit pas possible, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités pour le faire partir de force. » Falikou, bonsoir, vous êtes avec nous ?
Oui. Oui, bonsoir.
Alors, madame, vous pensez qu'il faut utiliser la force, hein ?
Oui, moi je pense qu'il faut utiliser la force, parce qu'avec les dirigeants africains, enfin, moi je ne sais pas s'ils viennent au pouvoir, pour vraiment pour le bien-être du peuple, hein, parce que la constitution, là, c'est pas question de la famille, les venus de privé ici. Et là, bon, la constitution, elle dit, ils essaient d'appliquer les textes, on dit non, de négocier. Quel genre de négociation ? Eh, là, il n'y a pas de négociation, là. Il ne faut pas accuser toujours les Occidentaux pour dire non, ce sont les jeunes qui font ceci, ce sont les Noirs qui font cela. Mais lui-même, il est venu au pouvoir. Il sait que bientôt, on doit organiser des élections. Et durant les 5 ans de mandat, ou voire les 10 ans de mandat qu'il a fait là, il ne savait pas qu'on devait organiser des élections. Et aujourd'hui, il vient nous dire non, Jésus était un éternel, ce n'est pas un juif. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il vient dire par là, vraiment. Et moi-même, ça me fait honte à la place des dirigeants africains.
Franchement, dit. Merci, merci beaucoup Falikou. En tout cas, on sent beaucoup de colère et je pense que beaucoup de Congolais sont assez d'accord avec vous. En tout cas, c'est ce qui transparaît des différents témoignages que nous avons reçus. Autre question, pour qui roule l'Église ? C'est la question qui nous a été posée plusieurs fois, notamment par Kademadi Fofana en Guinée, qui nous dit « L'Église congolaise joue le jeu des Occidentaux par le canal du Vatican depuis toujours. » Il y a encore Augustin Chibanga en RDC qui dit « Si l'Église catholique a échoué, qu'ils nous disent la vérité. » Alors ce soir, nous n'en savons pas plus encore, puisque les négociations sont toujours en cours, je vous le rappelle, bien que, Scott Bob, l'Église a donné une deadline qui est quand même aujourd'hui pour essayer quand même de finir sur un accord.
Je crois que l'Église catholique, surtout, étant donné qu'elle connaît très bien le peuple, étant très proche du peuple, a toujours essayé de jouer un rôle médiateur. On se rappelle pendant les conférences souveraines nationales que c'était l'Église qui présidait. Et je pense qu'ils sont pour la plupart sincères, bien que pour être neutre, il faut écouter les deux parties, il faut traiter avec égalité les deux côtés, les trois côtés s'il y en a. Donc c'est un rôle très difficile, parce que dès qu'il n'y a pas, on n'est pas d'accord, dès qu'il y a un problème, c'est au médiateur qu'on s'attaque, de tous les côtés.
Thierry Donghala, je reviens vers vous. On a d'autres témoignages, par exemple celui de Jean-Pierre Mwanza, encore en RDC, qui nous dit « Ces évêques jouent à la manigance de la majorité élargie et roulent toute la population. Ils ne sont pas clairs avec leur soutane d'hypocrisie. C'est révoltant. » Alors des commentaires assez empreints de colère. Thierry Donghala, si l'Église échoue, qui peut aujourd'hui agir ?
C'est une grande question, ça, mais pour l'instant, on sait qu'il y a plusieurs voix dans la discussion. L'Église, c'est juste la dernière voix qui a pris un peu d'ampleur et qui a essayé, mais on est sûr et certain que le peuple continuera à parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers leur parti. Mais pour revenir un peu au commentaire du monsieur qui disait qu'il faut utiliser la force, il y a une chose qu'il faut vraiment remarquer, c'est que l'armée congolaise, en fait, elle est désarmée. C'est des forces paramilitaires qui sont en train de traîner dans la rue dans des habits civils. Donc, c'est-à-dire, quand dans d'autres cas, où c'est, comme au Burkina Faso, là où l'armée a pris de relais et a choisi, ou même en Tunisie, quand l'armée a décidé de ne pas tirer sur le peuple, c'est un cas totalement différent. Aujourd'hui, avec le cas de Kabila, la force qu'il utilise, c'est un peu en dehors de l'État.
Donc, vous voulez dire que l'armée congolaise aujourd'hui n'est pas forcément celle à laquelle on pense traditionnellement dans un autre pays, qu'elle serait, que les éléments dont parlent certains témoignages sont plutôt des miliciens ou des éléments extérieurs à cette armée régulière, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, voilà. Bon, selon les commentaires que j'entends depuis Lubumbashi et ailleurs, c'est que en fait c'est des forces paramilitaires, donc des milices, oui, donc c'est la force n'est pas nécessairement une chose que le peuple en fait peut utiliser. C'est le peuple, comme vous dites, c'est ou comme j'ai dit avant, c'est des réseaux sociaux là. Ils sont obligés d'utiliser ce qu'ils ont, qui est leur propre voix et peut-être l'église ou leur parti politique pour mettre un peu plus de pression. Mais à part ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec devant nous, quoi.
Merci Thierry. Scott, il y a un vrai problème finalement avec que fait l'armée, qui est l'armée, de quoi elle est composée, quels sont ses éléments et de quel côté est-ce qu'elle va basculer en fait.
Oui, ce n'est pas connu exactement. Il y a des éléments qui sont très bien formés, très bien armés surtout, et sont d'habitude très fidèles à la présidence, et d'autres qui sont assez démunis. Mais en parlant de cette frustration, on doit se rappeler que le Congo a passé plus d'une décennie de violence et de souffrance très très extrême et que une partie de la population, au moins, s'en souvient très bien. Donc, il faut équilibrer cette frustration avec la possibilité d'un retour à cette violence et tous les problèmes que ça a mené. Alors, je crois que parmi certaines personnes, ils hésitent à vraiment chercher cette violence dont parlait le monsieur.
Parce que justement, c'est la question que beaucoup se posent ce soir. C'est que si jamais, à l'issue de ces dernières négociations, on va dire les négociations de la dernière heure, il n'y a pas une issue positive. On sait qu'il y a encore, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la primature en jeu. Il y a cette histoire de calendrier. Est-ce que la transition, ce glissement, va durer un an, deux ans, trois ans? Il y a encore toutes ces questions fondamentales. Et qui sera où? Et qui aura quoi, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir actuel. Comment aujourd'hui on peut prémunir le peuple congolais d'affrontements plus violents? On a vu Lubumbashi, on a vu Kinshasa, on a vu d'autres provinces s'embraser.
Eh bien, il faut peut-être séparer. Il y a des événements, de la violence qui est un peu imprévue, qui est subite. Et puis il y a d'autres où des leaders de l'opposition appellent à la sortie en rue, appellent à la ville morte, et qui donc, disons, fait appel à une certaine, au moins, manifestation qui souvent se tourne très violente.
Tshisekedi a appelé à des manifestations pacifiques au lendemain du 19 décembre. Mais oui, on a vu que rien n'est resté pacifique.
Mais on sait très bien que pacifique, c'est difficile quand il y a des accroches et puis ça dégringole jusqu'à des jets de pierre et puis ça répond par les balles, les lacrymogènes, etc. Donc c'est vraiment des deux côtés à essayer de prévenir et prévoir pour essayer d'éviter. Et je crois que c'est le grand souci de l'Église dont on parlait tout à l'heure.
Thierry, je vais revenir vers vous parce qu'on essaye encore d'avoir d'autres auditeurs, mais les lignes sont un peu compliquées avec le continent. Thierry, si demain l'Église n'arrive pas à avoir un accord complet, mais un accord partiel, quelles peuvent être les autres voies, quels peuvent être les autres recours selon vous?
Bon, on sait qu'il y a plusieurs envoyés dans la région. Il y a les envoyés des Américains qui continuent toujours. L'envoyé du président Obama, Monsieur Thomas Perriello, il continue toujours à jouer un rôle un peu plus consultatif et facilité. Je sais que déjà il fait son tour du pays pour élever les voix des Congolais devant monsieur le président Kabila, mais aujourd'hui je sais que les gens ils en ont marre. Ça fait un certain moment qu'il y a une incertitude. On peut pas ça me surprendrait pas de voir qu'il y aurait un peu plus de mêlée, un peu plus de bruit en dehors de ça, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette initiative de l'Église, parce que le peuple en ce moment, la ville est, voilà, ils n'en peuvent pas trop, et c'est ça ce que en fait le président calcule. Il nous semble que en fait à un moment les gens en auront marre et
il joue sur la résistance du peuple, vous pensez?
Oui, c'est comme un jeu d'attente, et la patience du peuple. Les leaders du peuple, les leaders des partis ont quand même, ils sont commis à la cause. Donc c'est pas certain que le jeu du président pourrait marcher. Mais c'est vrai que maintenant, là où on commence à entendre plus la violence, c'est ça un peu une évolution qui nous inquiète, parce que le peuple a commencé avec une ambition un peu pacifique, plus pacifique et constitutionnelle, mais maintenant ils restent avec moins d'options, et c'est là où les voix les plus extrêmes commencent à avoir plus de plateformes et plus de d'ampleur aussi. Donc ça inquiète un peu. Et donc il faut surveiller, il faut continuer à pour les gens dans les réseaux sociaux. Je pense que les leaders des partis, il faut qu'ils continuent à tempérer les sentiments du peuple.
Alors effectivement, on va reprendre quelques témoignages sur Facebook. On a Dali Ngambama en Afrique du Sud qui nous dit: je pense que Monsieur Kabila ne respecte vraiment pas les Congolais. Il le prouve chaque jour qu'il passe. Il oublie juste que c'est impossible de diriger tout un peuple seulement par défi. Charles Tix qui est à Lubumbashi et qui nous dit: le seul péché est de donner encore une année de plus à Kabila. La majorité au pouvoir n'a pas la volonté d'organiser les élections, même si on lui donne 30 ans. Pour moi, la solution, c'est juste le départ de Kabila. Ou encore Fabrice Mukwanya en RDC aussi, lui se trouve à Kinshasa, dit: je regrette seulement que notre pays soit bloqué et pénalisé à cause d'un seul individu qui malheureusement n'a pas voulu organiser des élections. Curieusement, c'est un système qui est récurrent dans bon nombre de pays africains. Franchement, nous avions souhaité le respect de notre constitution, celle pour laquelle notre président nous avait poussé à voter oui. Pour le dialogue, il n'y a rien qui nous garantisse son respect. Merci à tous d'avoir été présents dans ce dernier numéro de l'Amérique. Et vous, merci Scott Bob.
Un plaisir.
On va continuer de suivre cette situation en RDC, avec notamment ces négociations qui sont toujours en cours. Et restez sur voaafrique.com et la suite de l'actualité sur tous nos programmes. Merci et bonne fête à vous.
Bonne nuit.